Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà, on imagine le tourisme spatial et peut-être comment dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pourra envisager l'espace avec Jean-Baptiste Huet dans ce Tech & Co, la quotidienne exceptionnelle, avec une multitude d'invités passionnants. Et par visio maintenant, j'accueille Laura André-Boyette. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes instructrice de vol parabolique. Vous êtes consultante experte en vols spatiaux habités au Centre européen des astronautes. Depuis 2010, vous travaillez au Centre des astronautes européens à Cologne. D'ailleurs, c'est là où vous êtes actuellement, en Allemagne. Et vous avez déjà formé plus d'une vingtaine d'astronautes, dont un certain Thomas Pesquet, visiblement. C'est vrai ça? Vous avez formé Thomas?
Oui, on forme tous les astronautes qui se rendent à bord de l'ISS, donc c'est beaucoup plus qu'une vingtaine. Donc tous les astronautes européens, mais aussi tous les astronautes des pays, des nations partenaires de l'ISS, donc les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada aussi.
Et alors, donc, on s'est trompé sur les chiffres, mais vous en avez formé combien? Alors allez-y.
Alors, c'est difficile, on a plutôt une quantité d'astronautes en entraînement spécialiste et de mission par an, mais en fait, il y a une redondance dans la formation, on est obligé d'avoir un maintien aux aptitudes. Donc, qui sont partis, on va plutôt tabler sur une soixantaine.
Et juste en clin d'œil, vous êtes d'ailleurs la seule Française à occuper cette fonction, et donc c'est plutôt à saluer. Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le tourisme et la santé, et on va dire les particularités physiques qu'il faut développer pour envisager un vol spatial. Laura, c'est compliqué, enfin je veux dire... Jean-Baptiste et moi, est-ce qu'on pourrait demain se faire un vol de quelques heures comme ça, un vol parabolique, sans entraînement? C'est jouable?
Alors, là, on entend l'importance de la sémantique. Il y a effectivement différents vols. Donc là, vous pointez du doigt quelque chose d'important. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on se rend? Est-ce qu'on fait un vol parabolique? On ne sort pas de l'atmosphère. C'est un vol à bord d'un avion. Après, il y a des vols suborbitaux, les vols orbitaux, les vols où on va venir s'arrimer à une station spatiale et où on va rester potentiellement... longtemps. Donc, tous ces paramètres vont nous permettre de sélectionner et de former en regard des besoins. Plus un vol va être long, plus on va devoir être préparé et sélectionné aussi sur des critères physiques particuliers, effectivement.
On évoquait, Laura, tout à l'heure le cas, alors emblématique, j'en sais rien, mais de William Shatner, qui était parti avec Jeff Bezos, alors qui, pour le coup, avait fait un vol suborbital, mais qui était parti à 90 ans. Donc, on a vu a priori qu'il pouvait résister plutôt pas mal. Mais quand il est revenu sur Terre, il a engueulé Jeff Bezos et il lui a dit « Mais c'est pas possible, Jeff, tu m'as pas prévenu. » Alors pas physiquement, mais psychologiquement. Et justement, est-ce que votre rôle consiste aussi à travailler sur la psychologie, évidemment, sur l'importance que les impacts psychologiques que voir notre fragile planète Terre et notre toute petite atmosphère, quels impacts que ça peut avoir psychologiquement? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez?
Alors, moi, je travaille sur les vols habités à destination de l'ISS, qui sont des vols très cadrés, avec des astronautes principalement institutionnels, professionnels, mais avec Axiom, on a pu accueillir aussi une nouvelle population, avec des gens qui sont sélectionnés sur d'autres critères, parfois qui sont des critères financiers ou des critères de nationalité. Donc, ça vient un petit peu faire varier le panel des personnalités qu'on vient former. Donc, effectivement, nos astronautes institutionnels, professionnels, on les sélectionne et fait partie de la sélection des critères très précis au niveau de la psychologie. Donc, on est plutôt isolé de certains cas critiques. Avec une diversification et une démocratisation de l'activité, on va pouvoir potentiellement s'exposer à des risques certains. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les effets psychologiques, ils ne sont pas seulement observés à moyen ou long terme, on peut les observer très rapidement, qu'ils soient même suborbitales. Donc, le confinement, l'isolement, le stress, mais aussi cet overview effect dont certains astronautes parlent, le fait de voir la Terre depuis l'espace, ça, c'est un impact psychologique assez fort. Mais pour répondre plus précisément à votre question, on forme très peu les astronautes professionnels institutionnels parce qu'on les sélectionne énormément. Donc, on vient se prémunir, en fait, d'avoir à effectuer un entraînement à ce niveau-là.
Est-ce qu'à votre avis, Laura, les civils lambda que nous sommes pourront un jour, les échéances sont très lointaines, mais est-ce qu'on peut envisager d'ici 50, 60 ans des véritables paquebots de l'espace, mais vraiment des immenses structures remplies de voyageurs comme on le voit dans nos paquebots sur nos côtes pour le coup, mais qui seraient vraiment dans l'espace, hein, c'est-à-dire à plus de 80, 100 km d'altitude, donc on aura là vraiment on serait dans l'espace. Ça impliquerait de fait effectivement des visites médicales absolument massives, il faudrait explorer, enfin à tout le monde, poser des questions à tout le monde. Est-ce que ça, pour le coup, on n'a pas là quelque chose qui pourrait freiner définitivement ou interdire le tourisme de masse dans l'espace ?
Vous voulez dire interdit à cause du risque physiologique ?
Exactement, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas contrôler physiquement tout le monde. C'est, j'imagine que les tests doivent être assez compliqués pour le coup. Si chaque passager qui montait dans un paquebot, il fallait savoir s'il
en est carré. À moins qu'on arrive à recréer dedans la gravité, par exemple. On vous écoutera.
Moi, j'espère qu'on le limitera pour d'autres raisons. On parle, vous n'avez pas trop parlé, ou alors ben, j'arrive un peu tard, mais vous n'avez pas trop parlé en fait des réglementations. Alors, on parle de la sécurité et des risques physiologiques et psychologiques, mais on est quand même dans un vide juridique absolu qui laisse la place à beaucoup de choses, y compris des choses dangereuses pour les personnes, mais aussi pour la planète et pour l'espace extra-atmosphérique aussi. S'il y a un incident, un accident, c'est un impact sur les personnes, sur les finances, mais aussi sur des débris dans l'espace extra-atmosphérique. Donc en fait, peut-être qu'on pourra avoir techniquement et d'avoir suffisamment de gens qui sont à même de pouvoir partir. Moi, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir véritablement organiser ça décemment vis-à-vis des autres types de risques que l'on présente ?
Vous qui suivez évidemment toute cette activité de près, est-ce que vous voyez que ça bouge et que le tourisme spatial commence à prendre, on va dire, un petit peu de son envol, sans mauvais jeu de mots, parce que vous évoquiez tout à l'heure que, effectivement, vous entraîniez des astronautes, mais aussi sur des critères financiers, parfois. Ça veut dire que on peut imaginer que des civils fortunés peuvent passer cet entraînement. Hein, je crois avoir bien compris, hein, c'est ce que vous disiez ?
Il n'y a pas à l'imaginer, ça existe déjà. Hein, donc,
d'accord.
Depuis quelques temps, on a accueilli des touristes à bord de l'ISS qui sont partis avec des véhicules Soyouz, qui pour le coup se sont entraînés longuement, hein, qui s'entraînent chez nous, donc nous ça nous rassure un peu parce qu'ils viennent chez nous, ils viennent à bord de l'ISS. Et puis avec Action, mais c'est principalement une histoire de coût. Il y a des enjeux aussi pour certaines nations qui décident d'utiliser cette plateforme commerciale avec une forte visibilité pour positionner en fait des citoyens en orbite basse dans une durée relativement courte, ce qui est somme toute très intéressant. Donc voilà, ça existe déjà.
Parce que ce qu'on a peut-être omis de dire dès le départ, c'est que l'être humain a été conçu pour avoir une gravité. On est d'accord, hein, on reste debout. La gravité terrestre fait que on a été conçu pour ça. Quand on est comme ça, quand on perd cette gravité et qu'on se retrouve dans l'ISS, ça a un impact, j'imagine, sur notre physiologie, sur nos organes. C'est grave, docteur, si on reste dans l'ISS.
Non, je ne suis pas docteur, mais ça m'intéresse de vous répondre. En fait, effectivement, quand on est dans l'espace, il y a deux choses. Il y a l'impesanteur, donc on n'est plus soumis à la force de gravité. On a un impesanteur, et ça a plein d'effets. On est beaucoup moins protégé aussi par l'atmosphère terrestre, donc ça a des gros effets aussi. Et puis, il y a effectivement cette image sur notre cortex visuel qu'on peut avoir de la distance de la Terre. Donc ça, au niveau sensoriel, c'est ma façon de résumer les choses. L'impesanteur, c'est le truc qui est quand même compliqué. On a des effets immédiats au niveau du système vestibulaire, au niveau de l'oreille interne. Tout est un petit peu chamboulé, on est désorienté. ça rentre dans l'ordre en général au fil du temps sur les missions de moyenne et de longue durée. Mais déjà à court terme, immédiatement, en impesanteur, on a cet effet-là. On peut potentiellement avoir des effets psychologiques aussi. L'exposition aux radiations, elle est immédiate et puis elle va se cumuler. Le plus on va rester longtemps en orbite basse ou dans l'espace extra-atmosphérique, le plus on va être irradié. Et puis au niveau cardiovasculaire aussi, on a notre cœur et notre système cardiovasculaire qui immédiatement va fonctionner différemment et sur le long cours, qui va même s'affaiblir au niveau du système musculaire et au niveau du système osseux. Sur les missions de longue durée, on a une déminéralisation et une fonte musculaire. Et puis après, on a des choses qui se passent au niveau du système immunitaire, au niveau de la vision. C'est pas jojo, psychologiquement. Ça peut être compliqué, c'est toujours impactant. Fort heureusement, quand on revient sur Terre, presque tout est réversible, excepté l'irradiation. L'irradiation, on ne peut pas l'enlever.
Merci beaucoup Laura pour toutes ces explications, c'est passionnant. Vous êtes instructrice de vol parabolique et consultante experte en vols spatiaux habités au Centre européen des astronautes. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes depuis Cologne, donc en Allemagne.